Laudetur Jesus Christus.
Visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Benjamin Netanyahou promet de continuer à défendre Israël. Le Premier ministre et son ancien ministre de la Défense sont soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vladimir Poutine signe et confirme le tir d'un missile balistique hier vers l'Ukraine. Selon le chef du Kremlin, la guerre a désormais pris un caractère mondial. Dernier jour de la COP29 à Bakou, l'Azerbaïdjan pas épargné par les crises climatiques, notamment de l'eau. La mer Caspienne a baissé de 3 mètres en 30 temps. Reportage. Nous irons également dans ce journal au Mali évoquer les conséquences du changement de Premier ministre civil pour un militaire. Et nous reviendrons dans notre dossier sur la lettre du pape consacrée à l'enseignement de l'histoire publiée ce jeudi.
Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
Bonjour. 13 mois après le début du conflit entre le Hamas et Israël, la Cour pénale a donc émis 3 mandats d'arrêt internationaux. Un contre Mohamed Deif, le chef palestinien des brigades Al-Qassam, et deux contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ces mandats-là sont d'ores et déjà dénoncés par le Premier ministre israélien comme antisémites, alors que de son côté, le chef de la diplomatie européenne souligne qu'ils sont contraignants et doivent être appliqués. À Tel Aviv, Sandy Fortis.
La Cour pénale internationale a rendu sa décision. Elle a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de Yoav Gallant. Le tribunal de La Haye prétend que le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense sont coupables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ajoutant qu'ils ont utilisé la famine comme méthode de guerre. Une décision évidemment dénoncée par Israël. Benjamin Netanyahou a déclaré hier soir que c'était un jour sombre dans l'histoire des nations et que la CPI, créée pour protéger l'humanité, est désormais devenue l'ennemi de l'humanité. Si certains pays européens, dont la France, ont déjà affirmé qu'ils appliqueraient la décision de la CPI, les États-Unis, eux, l'ont vivement critiquée, la qualifiant de scandaleuse. Le chef de la majorité au Sénat, John Thune, a quant à lui menacé d'imposer des sanctions contre la Cour si les mandats d'arrêt n'étaient pas annulés. Depuis Tel Aviv, Sandy Fortis, pour Radio Vatican.
Et l'autorité palestinienne évoque pour sa part un signe d'espoir dans cette décision. Le mouvement islamiste du Hamas, lui, une étape importante vers la justice. Réunion interministérielle symbolique hier à Madrid. Le Premier ministre espagnol et son homologue palestinien ont signé 4 accords bilatéraux. Il s'agit de la première réunion de ce type depuis la reconnaissance par Madrid d'un État de Palestine le 28 mai dernier. Le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial, estime Vladimir Poutine. Hier soir, lors d'une allocution télévisée, le président russe a confirmé que ses forces avaient bel et bien tiré un missile balistique sur un site industriel en Ukraine. L'occasion pour le président russe de mettre en garde Kiev et ses alliés après que des missiles américains et britanniques ont touché le sol de la Russie. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est depuis le bureau où il avait annoncé l'entrée des troupes russes en Ukraine que Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'une allocution télévisée qui a duré moins de 10 minutes. Il a confirmé que Moscou avait procédé avec succès au test d'un nouveau missile balistique baptisé Oreshnik, qui veut dire noisetier. Mais surtout, le président russe a estimé que, je cite, « le conflit régional en Ukraine, provoqué par l'Occident, a pris une dimension mondiale ». Une réponse adressée directement aux alliés occidentaux de l'Ukraine après que des missiles américains et britanniques ont été tirés sur le sol russe en début de semaine. Partant de ce constat, le président russe a prévenu que la Russie avait donc le droit d'utiliser ses armes contre des installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes pour frapper la Russie. Enfin, il a ajouté qu'en cas d'escalade d'action agressive, Moscou répondrait toujours de manière aussi forte. On reste donc sur le fil de la dissuasion. Moscou montre sa capacité à réagir aux attaques opérées sur son sol par Kiev et ses alliés, en expliquant par ailleurs être prêt à frapper des cibles qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. La balle est désormais dans le camp adverse. Comme Vladimir Poutine l'a encore précisé, la Russie est prête à tous les scénarios. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Ce nouveau missile russe ne changera pas le cours de la guerre, affirme effectivement jeudi le porte-parole de l'OTAN. La Russie a besoin de migrants face à une situation démographique tendue, déclare le porte-parole du Kremlin à l'agence RIA Novosti ce vendredi. Nous vivons dans le plus grand pays du monde, mais nous sommes peu nombreux, reconnaît-il. En 2023, le taux de fécondité en Russie était de 1,41 enfants par couple. La journée sera longue à la COP29 de Bakou. Les négociateurs de près de 200 pays attendent aujourd'hui d'ultimes propositions de compromis financiers entre pays riches et en développement pour ce dernier jour de conférence. En Azerbaïdjan même, les conséquences du changement climatique sont déjà évidentes. Le pays connaît en effet une crise de l'eau sans précédent. La mer Caspienne a baissé de 3 mètres depuis 1995. Un drame pour les villages alentours, comme à Balogh-Jolar, où 95% de la population vit de la pêche depuis des générations. Reportage de Manon Chaplin.
Balogh-Jolar, littéralement le village des pêcheurs, c'est son nom, a perdu toute sa raison d'exister. Ces dernières années, l'eau de la mer Caspienne a reculé. Avec elle, les poissons ont migré. Le village, lui, a été déserté.
Avant, il y avait plus de 200 familles qui vivaient ici. Désormais, il n'y en a plus que 56. Il n'y a plus de poissons, donc il n'y a plus rien à faire. Les jeunes partent tous dans les grandes villes, à Bakou ou même en Russie et en Turquie.
Dans le salon de thé, une baraque désormais entourée de marécages, de vieux pêcheurs se rappellent l'époque où les vagues frôlaient encore les fondations de leur maison. Velia Gala raconte, il suffisait de lancer sa canne pour trouver du poisson.
Dans ce village, nous sommes tous nés pêcheurs. Notre chair est faite de poissons. Mon grand-père, mon père et moi-même, nous sommes pêcheurs. Mais mon fils, non, je ne le laisserai pas le devenir. C'est devenu le boulot le plus dur du monde.
À l'origine du phénomène, il y a la baisse des précipitations, bien sûr, il y a l'augmentation des températures, il y a surtout l'intensification des extractions d'eau pour irriguer les terres agricoles.
Et alors, que voulez-vous que l'on fasse? C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Qui sommes-nous pour y faire quelque chose?
Près de la Caspienne, quand la mer se retire, restent les légendes, comme celle d'un esturgeon d'une demi-tonne pêché dans les années 90, que se répètent ici tous les anciens. À Balogh-Jolar, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Hier marquait la journée mondiale de la pêche pour laquelle le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, le cardinal Tcherny, insistait dans un message sur l'écologie intégrale, la protection des petits producteurs et la fin de méthodes prédatrices. Troisième exécution capitale en une semaine à Singapour, un homme de 55 ans condamné à mort pour trafic de drogue a été exécuté par pendaison ce matin dans la cité-état. Il s'agit de la 8e peine capitale de l'année. Nous devons nous en débarrasser. La peine de mort doit être abolie, déclarait François, en évoquant aussi la situation américaine dans l'avion le ramenant de Singapour à Rome le 13 septembre dernier. Aux États-Unis, justement, un homme condamné à la peine capitale pour le meurtre il y a 30 ans d'une autostoppeuse en Alabama est en instance d'exécution hier par inhalation d'azote, un procédé utilisé seulement pour la troisième fois au monde. La peine de mort est abolie dans 23 des 50 États américains. Beaucoup attendent du président Biden qu'il gracie des condamné à mort avant l'investiture de son successeur. Au Mali, la junte parachève la militarisation de l'exécutif. Le général Maïga est devenu premier ministre hier à la place du civil Choguel Maïga, limogé après des critiques contre le pouvoir. Les précisions de notre correspondant dans la région, Abdulrazak Idrissa.
Abdoulaye Maïga, figure clé de la junte au pouvoir, est perçu comme un choix stratégique, confirmant l'emprise des militaires sur le gouvernement de transition. Il avait déjà occupé brièvement le poste de Premier ministre par intérim durant l'hospitalisation de Choguel Kokala Maïga. Le nouveau gouvernement qu'il dirige a été annoncé quelques heures après sa nomination. Les proches de l'ancien Premier ministre en sont écartés. Les principaux portefeuilles conservent leurs titulaires, dont ceux de la Défense et de la Réconciliation nationale, entre les mains de deux des principales figures de la junte que sont Sadio Camara et Ismaël Ouagé. Le général Maïga prend la tête du gouvernement alors que les militaires maintiennent un flou sur leur éventuel départ. Ils ont dénoncé l'engagement qu'ils avaient pris initialement sous la pression internationale de rendre le pouvoir à des civils en mars 2024 après des élections. C'est entre autres ce qu'avait dénoncé Choguel Kokala Maïga et qui lui a valu son limogeage. Il a notamment dénoncé une mission de déstabilisation dont il aurait été victime de la part d'anciens alliés de son mouvement, de certaines institutions de la transition et de membres du gouvernement. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
La France et le Chili unis pour la protection des océans, dernière étape de sa tournée en Amérique latine, c'est à Santiago qu'Emmanuel Macron et son homologue ont signé hier l'appel de Valparaiso, en amont notamment de la troisième conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu à Nice en juin prochain. Et protection de l'environnement, toujours les Bahamas annoncent ce matin qu'ils vont refinancer 300 millions de dollars de leur dette extérieure afin de libérer plus de 120 millions de dollars pour des projets de conservation conservation marine et d'atténuation du changement climatique. Il s'agit du 5e échange de dettes contre nature au monde. Présidentielle en Uruguay ce dimanche, la gauche espère un retour aux affaires. La droite compte, elle, sur un réservoir de voix. Précisons que le vote est obligatoire en Uruguay. Et puis des milliers de manifestants dans les rues de La Paz. Ce jeudi, les Boliviens défilent contre la crise économique qui devient alimentaire. Les manifestants donnent 15 jours au gouvernement pour prendre des mesures afin d'améliorer la situation. Mieux étudier l'histoire pour comprendre la mission de l'Église aujourd'hui en lien avec son passé. Telle est l'inspiration centrale de la lettre publiée hier par le pape François sur le renouvellement de l'histoire de l'Église. Un texte dense dans lequel l'évêque de Rome pointe l'urgence pour les étudiants en théologie d'approfondir une véritable sensibilité historique. Pour François, il est important de cultiver une nouvelle approche de l'histoire afin d'échapper à ce qu'il appelle les déformations idéologiques, à commencer par le culte de l'immédiateté porté notamment par la culture numérique contemporaine. Retour sur ce texte avec ce matin le regard du père Bernard Ardura de l'ordre des Prémontrés. Il est le président émérite du Conseil pontifical pour les sciences historiques.
Le pape s'adresse naturellement d'abord aux jeunes étudiants en théologie, mais au fond, il s'adresse aussi à tous les hommes de bonne volonté. L'important, et le pape le souligne très fortement, c'est de comprendre que notre esprit doit être suffisamment ouvert pour comprendre qu'il vient de quelque part et qu'il a reçu un héritage. Nous ne partons pas de zéro. Nous avons une tradition de 2000 ans. Et je crois que ce lien qui nous unit, comme l'écrit le pape, aux générations qui nous ont précédés, est un lien qui nous enrichit et qui en même temps nous aide à mieux comprendre notre présent. Et c'est évidemment une garantie pour envisager quel peut être notre avenir.
Comment, Père Ardura, vous recevez les mots du pape quand il met en garde contre la construction de récits, notamment de récits identitaires? C'est un danger que vous avez aussi senti de la part d'une plus jeune génération dans l'Église aujourd'hui?
Alors évidemment, la foi fait partie de notre identité, mais tout dépend de la façon dont nous l'envisageons. Surtout aujourd'hui où, à la côté d'une mondialisation qui semble faire fi des identités, il y a évidemment une réaction et c'est cette poussée de l'identité, j'allais dire, locale, mais en même temps de l'identité individuelle. Tout ceci, ça conduit tout simplement à contourner l'histoire, à nous enfermer, mais d'une façon très illusoire, dans une identité. Parce que notre identité, elle ne peut se construire qu'en lien avec d'autres. Alors voilà pourquoi cette étude, cette recherche de l'histoire, cet enseignement, cette diffusion de l'histoire dont parle le pape, eh bien contribue à élargir notre esprit et à prendre vraiment conscience eh bien que l'ignorance et les préjugés, le pape le souligne, sont à l'origine, dit-il, d'un régime mortifère de haine. Parce que poussé à ses extrémités, eh bien, la réflexion identitaire voit les autres comme des ennemis.
Le pape écrit « C'est précisément là où l'Église n'a pas triomphé aux yeux du monde qu'elle a atteint sa plus grande beauté ». Comment vous recevez cette phrase? Est-ce que cela veut dire aussi que l'histoire de l'Église doit être lue aussi de manière peut-être parfois plus humble?
Ah, certainement. Mais vous savez, lorsque le pape Léon XIII, dans son long pontificat, a décidé d'ouvrir les archives et la bibliothèque apostolique aux chercheurs, il a dit tout simplement « Nous n'avons pas peur de la vérité ». Et donc c'est cette recherche de la vérité qui ne peut se comprendre que comme une recherche dans l'humilité. Et à la fin de sa lettre, le pape parle de l'intérêt de faire connaître les petits, ceux dont on ne parle pas dans les cours d'histoire. Eh bien voilà, je crois que c'est là que l'Église montre vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire cette communauté des croyants qui est fondée sur le Christ et qui a pour mission eh bien, de témoigner dans le monde d'aujourd'hui eh bien, de ce grand amour, un Dieu qui qui est rentré dans notre histoire.
Interrogé par Olivier Bonnel, le père Bernard Ardura, président émérite du Conseil pontifical pour les sciences historiques, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute. Prochaine édition à 13h en direct de Rome. Excellente journée.